Étude sur le livre des psaumes. Des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, psaume 33, un psaume de louange. Comme les psaumes 1,2 et 10 du premier livre, ce psaume est appelé orphelin, car il n'a pas d'entête en hébreu. La Septante, LXX, traduction grecque des écritures hébraïques, donne David comme auteur de ce psaume. Il le composa sans doute pour célébrer la victoire d'Israël sur un grand ennemi. La date et le contexte exact du psaume sont inconnus. Cet hymne de louange met l'accent sur les actions de Dieu à l'égard d'Israël et des autres nations. Il commence par un appel à adorer Dieu, vs 1 à 3, continue en donnant 4 raisons pour l'adorer, vs 4 à 21, puis se termine par une bénédiction, v 22. L'exhortation de louer l'Éternel s'adresse aux justes et aux hommes droits. Dieu n'accepte que l'adoration des purs, ceux qui sont sans reproche mais pas sans péché. Leur devoir, leur honneur, est d'adorer Dieu. Et le délice de Dieu est d'accepter leur louange. Juste, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrer l'Éternel avec la harpe, psalmodier en son honneur, sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant, vs 1 à 3. Le psalmiste emploie plusieurs termes, pousser des cris de joie, célébrer, psalmodier, chanter, pour décrire l'adoration par les justes. Ils doivent chanter un cantique nouveau sur les bénédictions récentes de l'Éternel, un cantique de forme connue mais avec un contenu nouveau. Chaque acte de la grâce de Dieu doit être l'objet de leur sincère reconnaissance. Le psalmiste mentionne 2 instruments qui accompagnent cette adoration, la harpe, kinnor, et le luth, nebel. La harpe, l'un des plus anciens des instruments, GN 4.21, fut connu des Égyptiens aussi bien que des Israélites. David en jouait avec habileté, 1 S 16, 23. Le luth, considéré comme d'origine phénicienne, est mentionné pour la première fois en 1 Samuel 10.5. Il se distingue de la harpe par l'arrangement de ses cordes. D'autres instruments furent également employés dans le culte de l'Ancien Testament. Le fait que les adorateurs israélites devaient employer des instruments de musique pour adorer ne signifie pas que les chrétiens devraient les utiliser aujourd'hui. Plusieurs éléments de l'adoration judaïque ont été ôtés du culte de l'Église du Nouveau Testament par son fondateur, Jésus-Christ. Considérez ces éléments, le sacrifice des animaux, l'encens, la libation de sang sur l'autel, les danses devant Dieu, l'observation du sabbat et des fêtes, expiation, Pâques, Pentecôte, tabernacle. Le Christ a introduit une voie nouvelle vivante et supérieure à celle de l'Ancien Testament. Bien que l'Église du Nouveau Testament n'utilise pas d'instruments de musique, elle adore bien Dieu, elle l'adore, elle lui exprime sa reconnaissance, elle se réjouit en lui. Ce psaume peut donc nous rappeler l'adoration que nous devons à Dieu, même si l'adoration par instrument de musique est exclue pour les chrétiens. L'idée centrale du psaume est la réponse à la question « Pourquoi adorer l'Éternel ?» À une telle question, beaucoup de réponses sont possibles. « Nous adorons Dieu à cause de son caractère », vs 4 à 5. Le caractère de Dieu fait de lui un être complètement à part de l'homme. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit, avec fidélité, il aime la justice et le droit, la bienveillance de l'Éternel remplit la terre, vs 4 à 5. Dans ces 2 versets sont nommés 4 attributs moraux dignes d'adoration. Premièrement, l'intégrité de Dieu, sa parole est toujours vraie. Le terme droite signifie sans duplicité, tout ce qui est le contraire de fausse. Dieu, qui œuvre toujours avec fidélité, ne dit ni ne fait rien de malhonnête. Deuxièmement, la sainteté de Dieu est décrite par les termes justice et droit. Les traits que l'Éternel aime trouver dans ses enfants, il les démontre dans toute leur splendeur en sa propre personne. En accomplissant sa volonté dans le monde, Dieu fait accomplir ses œuvres sur le principe parfait d'un jugement juste. Troisièmement, le psalmiste parle de la bienveillance de Dieu, qualité qui gouverne ses actions envers le peuple de son alliance. Tous ces attributs ensemble sont réunis dans la nature de Dieu, ce qui fait que la terre est remplie de sa grâce. La bonté de Dieu est digne de notre louange. 2. Nous adorons Dieu à cause de sa puissance créatrice, vs 6 à 9. Le seul fait que Dieu soit créateur de toutes choses suffit pour que nous l'adorions. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et, la chose, arrive, il ordonne, et elle existe, vs 6 à 9. Dieu parla et les cieux devinrent réalité. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, chaque ordre de Dieu, porteur de son énergie divine, fit venir instantanément à l'existence une partie de sa création, animée ou inanimée. Par sa seule parole il donna la vie. L'acte de création n'exigeait pas plus que cette parole, un souffle de la bouche de Dieu. En latin, on exprime cette idée par l'expression dictum factum, dit fait. En français, on dirait sitôt dit, sitôt fait. Regardez les ouragans, les inondations, les tornades, les eaux souterraines, les sécheresses, et les vastes océans, et vous serez convaincus que leur pouvoir dépasse celui de l'homme. Leur puissance vient de Dieu, source bien supérieure à l'homme. Toutes les nations de la terre devraient se tenir devant l'Éternel dans l'émerveillement et l'humilité, sa puissance créatrice est incontestable. Nous adorons Dieu à cause de son œuvre dans le monde, vs 10 à 17. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Vs 10 à 12. Aucun événement ayant lieu sur la terre n'est un accident. Soit Dieu le fait lui-même, soit il le permet. L'ordre et le mouvement du monde sont le fait de Dieu. Aucune personne, aucun groupe, aucune nation ne contrôle son propre destin ni n'annule le dessein de Dieu. Au-dessus des desseins des hommes se situe celui d'un Dieu de miséricorde, qui désire bénir les justes et accomplir ses buts à travers eux. Ce que l'homme projette de faire ne peut jamais frustrer ni détruire la volonté de l'Éternel. Il veut que tous soient sauvés, mais quand peu de gens choisissent sa voie, son dessein reste tout de même intact. Il accomplira toujours ses desseins éternels, malgré tout ce que l'homme peut faire. Le psalmiste parle de la bénédiction et de l'honneur particuliers accordés à la nation dont l'Éternel est le Dieu, c'est-à-dire Israël. Dieu le choisit pour un statut spécial, pour être le peuple à travers lequel il devait accomplir ses desseins. Les justes en Israël devaient être bénis de nourriture, de sécurité et de salut. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains, du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée, le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour, assurer, le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Vs 13 à 17. Le Très-Haut connaît le monde qu'il a créé, il le maintient avec soin. Il scrute tout être humain, ne négligeant personne, ni l'homme juste ni le païen. C'est lui qui fit leur corps et leur esprit, il observe tout ce qu'ils font. Tous sont redevables à l'Éternel, juge suprême de l'univers. Les rois et la terre peuvent mettre en avant la puissance militaire de soldats et d'armées, mais derrière toute autorité humaine est l'autorité de Dieu. Il est le souverain absolu, qui donne leur force aux nations et détermine leur influence. L'humaniste regarde à l'homme pour la force et la sagesse, mais les efforts les plus spectaculaires des hommes fondent comme des flocons de neige devant le soleil levant, si Dieu s'érige contre eux. Les justes devraient se souvenir que Dieu est souverain dans toutes les affaires des hommes. Nous adorons Dieu parce qu'il prend soin des siens, vs 18 à 21. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom, vs 18 à 21. L'homme juste peut s'assurer d'être protégé par l'œil et la main de l'Éternel sur lui. S'il adore Dieu et tend la main vers la grâce divine, la providence de Dieu le protégera devant ses ennemis ou devant les ravages des désastres naturels. À cause de cette protection, le serviteur de Dieu décide de s'attendre à Dieu, de voir en lui un guide et un bouclier. Lorsque nous comprenons la personne de Dieu, ainsi que ses œuvres en faveur de ses enfants, notre cœur devrait déborder de joie en lui. Nous avons mis notre confiance en lui, nous savons qu'il fera comme il l'a promis. Conclusion. Lorsque nous pensons à Dieu, à son caractère, à sa puissance créatrice, à sa souveraineté sur le monde et à son souci pour ses enfants, nous ne pouvons pas ne pas l'adorer. Le fait qu'il est digne de notre adoration devrait nous contraindre à nous présenter devant lui dans la louange. Quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances, nous serons témoins d'actions bienveillantes de la part de Dieu. Nous verrons de nouveau sa grandeur, sa providence autour de nous, sa grâce qui nous sauve. Dieu continuera de nous faire profiter de sa miséricorde. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi, V 22. Il reste une pensée dans ce psaume, notre premier besoin, en tant qu'êtres humains, est de recevoir la bienveillance de Dieu. Mais le don de sa grâce sera en proportion avec notre confiance et notre espérance en lui. Ceux qui mettent leur foi en l'Éternel peuvent s'attendre à une entière délivrance de la part de Dieu. Il n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais ceux qui se confient à lui.